Studio Tamani, voici les informations en français.
Merci d'écouter Studio Tamani, il est 8h à Bamako, la même heure partout au Mali. Mesdames, Messieurs, bonjour, voici les titres de cette matinale. Le Mali a célébré hier la 2e édition de la Journée nationale de la souveraineté retrouvée. L'événement a été marqué par des conférences, débats et des actions de patriotisme et d'éveil des consciences. Les activités de la Semaine nationale de la justice ont été bouclées samedi dernier à Bamako. La société civile s'est réjouie de cette édition, mais elle souhaite une bonne distribution de la justice. Cannes Côte d'Ivoire 2023, le Mali fait son entrée dans la compétition demain mardi contre l'Afrique du Sud. Match prévu à 20h au stade Amadou Gon Coulibaly de Korogo. Tout de suite, le développement de ce titre avec Sekou Gadjigo. Mamadi Keïta sur la mise en onde, mesdames, messieurs, bienvenue. La 2e édition de la Journée nationale de la souveraineté retrouvée a été commémorée hier dimanche 14 janvier 2024. Dans 200 montées de couleurs, conférences, débats et prestations d'artistes ont marqué cette journée à travers le pays. Selon les autorités nationales, l'objectif de cette commémoration est de renforcer le sentiment patriotique pour le respect de la souveraineté nationale et de la défense citoyenne des intérêts vitaux du peuple malien. Le point avec Ousmane Yalibouli.
À Kaye, des dons de sang ont été faits ce dimanche 14 janvier à l'hôpital Fousseyni Ndaw de Kaye. Une activité organisée par la direction de l'hôpital et les autorités régionales. Au même moment, dans la région de Koulikoro, 12 ambulances médicalisées ont été offertes à la direction régionale de la santé. Des matériels médicaux et 300 kits alimentaires remis aux deux munis de la région au service du développement social. À Gao, 4 activités étaient au programme de cette journée nationale de la souveraineté. Il s'agissait d'un don de sang, la montée des couleurs à la place de l'indépendance, une conférence débat et enfin une cérémonie de prestation d'artistes organisée par l'association des artistes de Gao au stade Kassé Keïta. Par contre, dans certaines localités du pays, il n'y a pas eu d'activité pour l'occasion. C'est le cas à Sikasso et Yoroso au sud du pays, Pantiangara et Bankas au centre et à Ansongo au nord.
À Bamako, l'un des temps forts de cette journée nationale de la souveraineté retrouvée était la conférence de presse animée à l'université de Kabala pour le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique Bourema Kansai. Le choix de l'université n'est pas fortuit. Selon lui, le secteur universitaire et de la recherche constitue le pilier de la résistance et du développement du pays. Il réagit au micro de Jiada Tamaïga.
Ce n'est pas un hasard si le lancement de cette célébration de cette année s'est fait dans le campus universitaire de Kabala, parce que tout ce que nous faisons doit être soutenu par une réflexion profonde. Et les piliers de notre résistance et de notre développement demeurent toujours l'enseignement supérieur et la recherche scientifique. Les chercheurs maliens l'ont prouvé l'année dernière en organisant un colloque sur l'analyse des sanctions qui avaient été imposées à notre pays et sur la proposition des pistes de résilience. Donc ce travail de veille, d'alerte de l'université va se poursuivre pour que notre pays puisse aller de l'avant, protéger sa souveraineté et puisse enclencher le développement économique et social.
Studio Tamani, projet de la Fondation Hirondelle au Mali, financé par les gouvernements de la Suède, du Danemark, de la Suisse, du Royaume-Uni, par l'Union européenne et la coopération espagnole.
Je vous le disais dans les titres, les activités de la Semaine nationale de la justice ont pris fin samedi dernier à Bamako. Les membres de la société civile et des acteurs de la justice affirment que plusieurs attentes des Maliens ont été comblées au cours de cette 2e édition. Toutefois, ils souhaitent une bonne distribution de la justice à travers le pays. Le reportage de Sita Sidibé.
Au cours de cette semaine, Mamoudou Kassongé, ministre de la Justice, a annoncé que près de 70 terroristes ont été entendus dans les tribunaux en 2023.
Nous avons 67 dossiers jugés en matière de lutte contre le terrorisme spécifiquement. Ce que je voudrais dire à l'attention de tous les acteurs de la justice, c'est de veiller à ce que la justice soit distribuée de manière correcte.
Satisfait des avancées remarquées dans le secteur de la justice, les acteurs de la société civile souhaitent l'opérationnalisation des recommandations faites. Mamadou Yata Say, vice-président du conseil régional de la société civile du Mali.
Le ministère de la justice nous a montré beaucoup d'innovation au cours de cette semaine et beaucoup d'avancées dans la lutte contre les droits de l'homme. Ce que nous allons demander au ministère de la justice, c'est de rendre opérationnelles les recommandations de la nouvelle constitution.
Pour le ministre de la justice, des défis et perspectives reste énorme. Il s'agit de l'adoption du code pénal et le code de procédure pénale au niveau du CNT, des textes sur l'esclavage et les violences basées sur le genre, entre autres.
Les journaux de la CAN, suivez l'actualité de la CAN sur Studio Tamani.
Trois matchs étaient au programme hier, deuxième journée de la compétition. Le Nigeria et la Guinée équatoriale se sont neutralisés un but partout. Deux buts partout, c'est le score du match Égypte-Mozambique. Et le Ghana a été dominé par le Cap-Vert, 2-1. Les Aigles du Mali entrent en lice demain mardi 16 janvier à 20h, temps universel. Ce sera contre l'Afrique du Sud au stade Amadou Gon Coulibaly de Korogo. Le moral est bon côté malien pour arracher les trois points, nous dit notre envoyé spécial Zamogon Traoré depuis Korogo.
Les protégés du sélectionneur national Eric Sékou Chiel, c'est-à-dire les Aigles du Mali, ont effectué leur premier entraînement hier dimanche 14 janvier à 20h à huis clos. C'était sur leur terrain d'entraînement à 20h parce que le match est prévu demain à la même heure. Et ce lundi après-midi à 16h, il y aura un autre entraînement de veille, cette fois-ci au stade Amadou Gon Coulibaly, au cours duquel la presse sportive aura l'opportunité d'échanger avec les joueurs pendant 15 minutes selon le règlement de la CAF. L'effectif est au complet, l'infirmerie est vide. Le moral est au beau fixe pour remporter les trois points, pour jouer le rôle du 12e homme. Les supporters des Aigles du Mali ont déjà rallié Korogo. Il faut rappeler que la Côte d'Ivoire, l'hôte de la compétition, a gagné son entrée en matière samedi dernier. Elle a battu la Guinée-Bissau au match d'ouverture par le score de 2-0. C'était la joie dans les rues de Korogo. Zamongon à Korogo, à la CAN Côte d'Ivoire 2023 pour Studio Tamani.
Et notre envoyé spécial nous informe que le joueur malien Mohamed Camara a été évacué hier à Abidjan. Sur place, il doit faire des analyses après avoir eu des soucis de santé. Les détails dans nos éditions futures. Au programme ce soir dans la poule C à 14h, Sénégal-Gambie, Cameroun-Guinée à 17h et à 20h, Algérie-Angola pour le compte de la poule D. Dans la rubrique « L'œil du consultant », Mohamed Soumaré, journaliste consultant sportif, estime que le match d'ouverture de la CAN n'a pas été assez performant. Selon lui, les éléphants de Côte d'Ivoire ont su profiter de l'indulgence de la Guinée-Bissau. Nous l'écoutons au téléphone de Kouma Finkeita.
C'est vrai, beaucoup de fans des Ivoiriens ne sont pas contents du score de 2-0 qui aurait pu être plus lourd. D'habitude, les matchs d'ouverture de la CAN ne nous donnent pas trop de satisfaction sur le plan technique, compte tenu de l'enjeu, de l'émotion qui entoure ce match inaugural. La Côte d'Ivoire a su prendre le match par le bon bout et en début de seconde période, elle a marqué un deuxième but pour se mettre à l'abri. D'ailleurs, la Guinée-Bissau aussi s'est procuré quelques situations, mais n'a pas du tout été dangereuse devant les buts. Il faut dire que les éléphants aussi ont profité de cette indigence.
Dans les rues de Bamako, une bonne partie des espaces publics est bondée de monde pour suivre les matchs de la CAN sur des écrans géants. Ces projections sont très appréciées par des supporters qui se réjouissent de l'initiative en cette période de coupure d'électricité. Écoutons leur réaction au micro de Aboubakrine Ag Mohamedine.
Le match était chic. Voilà, on remercie tout le monde. On vient, on regarde le ballon ici. L'organisation est très bien.
Nous, on n'a pas très chez nous, donc on vient pour regarder le ballon ici. Ça veut dire qu'on a un courage, quoi, regarder le ballon.
Depuis hier, on est là. Effectivement, hier, on a eu beaucoup de monde. Malheureusement, tous ceux qui sont venus n'ont pas eu de place, mais ils se sont arrêtés et regardé le match. Et vraiment, ça a été quelque chose de satisfaisant.
Bien d'arriver, mais je vois déjà, il y a beaucoup d'ambiance ici. Hein. Cette fois-ci, c'est très bien organisé parce qu'ils ont fait un parking pour moto. Ça m'a beaucoup plu, moi-même, je viens de regarder ma moto.
Vous vous rappelez certainement de l'équipe des Comores qui a créé la sensation lors de la CAN précédente au Cameroun. Après une qualification surprise en huitième de finale, les Comoriens, avec un gardien de fortune, ont bien secoué les Lions indomptables. C'est l'anecdote du jour avec Maria Maïga.
L'équipe des Comores est définitivement entrée dans l'histoire lors de la CAN précédente. En huitième de finale face au pays hôte, le Cameroun, les Comores se présentent sans gardien de métier. Le gardien titulaire étant blessé, les deux autres plus le coach sont testés positifs à la COVID-19. Pour pallier ces absences, les Comores alignent le défenseur Chakar Aladour au poste de gardien. Il encaisse cependant 2 buts. Ce jour-là, les sélécantes des îles Comores parviennent à réduire l'écart à la 81e minute. Pour des amoureux du football, ils ont réussi un exploit et ont écrit une page de l'histoire de la CAN.
À 8h passées de 10 minutes, se referme cette édition qui vous a été présentée par Sekou Gadjigo, mise en nom de Mamadi Keïta. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, le journal en Bamanankan, c'est avec Idrissa Sako.
Attention, la dengue existe au Mali. De nombreux cas sont enregistrés dans le pays. Ousmane Touré, un malade guéri, nous parle des symptômes de la maladie.
Moi, j'ai eu la dengue. Ça s'est d'abord manifesté par beaucoup de courbatures, de violents maux de tête, des nausées. Je me sentais très, très, très faible également. Mais le fort, c'est vraiment les courbatures qui m'ont fatigué. On a mal absolument partout, de la tête aux pieds.
La dengue n'est pas à prendre à la légère. Seule une prise en charge rapide augmente les chances de guérison, affirme M. Touré.
Ce n'est ni un palu, ni autre chose, c'est la dengue. Et c'est vrai que c'est provoqué par les moustiques. Et il faut prendre cette maladie au sérieux parce qu'elle est en train de faire énormément de mal, énormément de dégâts autour de nous. Il faut se faire dépister. En cas de besoin, n'allons pas seulement faire le test du palu, faisons également le test de la dengue pour nous rassurer.
Ceci est un message des studios Tamani.
En partenariat avec le ministère de la Santé et du Développement Social.
Le réchauffement climatique demeure un mal planétaire. Il reste cependant une question qui n'a pas encore eu de réponse idoine. Les communautés locales sont pointées du doigt comme l'une des actrices principales de ce phénomène. Et pourtant, celles-ci, conscientes de leur rôle, entendent changer de comportement alors quelles peuvent être les solutions locales possibles. Des experts tentent de répondre à cette question et à d'autres dans ce magazine de Parlons de l'environnement. Il est réalisé par Fatih Yatara.
Les actions locales peuvent contribuer à lutter contre les changements climatiques. Et les communautés Assegou, Bafoulabé, dans la région de Kaï et Sikasso, en sont conscientes. Elles évoquent quelques solutions, notamment la réforestation, l'élimination de l'utilisation du charbon de bois, entre autres.
Moi, j'utilisais beaucoup le charbon, donc j'utilise en abondance le gaz.
Donc si nous nous adonnons à la plantation des arbres, peut-être cela peut avoir un impact sur le changement climatique. Déplorable.
J'ai décidé de ne plus utiliser le charbon et le bois. J'utilise le gaz.
D'abord, il faut planter des arbres, il faut faire le reboisement.
Ça aide le reboisement, c'est-à-dire planter les arbres, puis l'utilisation des foyers améliorée.
Toutes les fois que je mange les graines des arbres que je prends, je garde pendant l'hiver, en me promenant, je jette dans la nature, je jette un peu au bord du carré.
Plus que la plantation des arbres et la réduction de la consommation du bois, les populations peuvent aussi jouer sur d'autres aspects écologiques, soulignent les consultants et environnementalistes Abdraman Sanogo. Il mentionne la réduction de l'élevage, un secteur qui favorise l'émission des gaz méthane ainsi que la limitation de la consommation de la viande.
Vous prenez le cas du dégagement de méthane qui est un gaz à effet de serre mais qui est lié à l'élevage intensif. Tout ça par le comportement, on peut le changer en mangeant moins de viande, passer des véhicules à 100% fossiles aux véhicules hybrides ou aux véhicules électriques.
Cependant, l'expert reconnaît que ces changements de mentalité requièrent beaucoup d'efforts. Il prône notamment l'insertion de programmes dédiés à l'environnement dans l'éducation malienne.
Essayer d'éduquer le citoyen, notamment depuis l'école primaire, les apprendre un peu les bienfaits de la nature et comment nous sommes liés à la nature et si la nature est dégradée, que cela jouera sur notre vie. Maintenant, ce qui concerne les adultes, c'est encore la sensibilisation parce que l'histoire a montré que la répression que nous faisons ici ne marche pas. Plus on réprime, plus les 1-2 degrés de l'environnement. Il faut passer par la sensibilisation.
Certains observateurs apprécient déjà les niveaux de compréhension des populations par rapport à leur rôle dans la lutte contre le réchauffement climatique. Cependant, ils déplorent la persistance de certaines pratiques nocives à l'environnement, comme en témoignent les services de la météo. Ismaël Koumaré, prévisionniste à Mali Météo.
La visibilité est vraiment réduite par la poussière, la fumée. Vous savez, il y a les véhicules qui dégagent aussi les fumées. Les gens brûlent des bois, souvent des herbes sèches. Pendant la nuit, donc les fumées, ça reste toujours en surface. Pendant le petit matin, quand on se réveille, on observe que vraiment la visibilité est réduite.
Les professionnels de la santé interviennent pour dire que plusieurs pathologies dont souffrent les populations de nos jours sont liées au comportement humain. Dr Traoré Issa est médecin à l'ASACO de Djikoroni Para. Il cite notamment des maladies pulmonaires et cancérigènes occasionnées par la pollution de l'air.
Oui, effectivement, les particules qui sont émises dans la nature sont chargées de connotations chimiques, physiques et d'autres métaboliques. Donc cela peut entraîner des conséquences graves sur la santé, notamment des problèmes d'allergie et de détresse respiratoire.
Pour rappel, l'année 2023 fut l'année la plus chaude selon une étude de Copernicus. Les raisons signalées sont particulièrement la persistance et l'augmentation des émissions de gaz. Fin de ce magazine de Parlons de l'environnement. Merci de l'avoir suivi. C'était une présentation de Fatih Attara.